Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant 11h sur Fréquence Mistral. Tout de suite, notre dernier rendez-vous en direct des correspondances présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Agathe, bonjour à tous. Et oui, c'est le dernier rendez-vous le samedi des correspondances de Manosque. Avec un beau plateau qui s'annonce, tout d'abord, trois musiciens qui vont nous parler de ce concept un petit peu exceptionnel qu'ils appellent les siestes littéraires. Sébastien Lallemand, J.P. Nataf et Albin de la Simone qui vont nous raconter cette expérience à Manosque. On entendra également le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, nous donner le programme du jour et puis j'espère accueillir dans cette émission Frédéric Nefcher-Irlian qui nous parlera de son prochain album et avec qui on évoquera aussi Le soleil brille pour tout le monde. Et puis j'attends aussi Océane Rosemary et Simonetta Greggio qui a écrit « L'homme qui aimait ma femme ». Bonjour Bastien Lallemand.
Bonjour.
Bastien Lallemand, on l'a reçu l'année dernière, il était venu présenter Le Verger et puis surtout nous parler de Jean Giono. C'est un admirateur de Jean Giono, ça tombe bien ici à Manosque. On est, vous le savez, on est tombé dans la marmite nous aussi tout petit. Bastien Lallemand, vous avez développé un concept étonnant d'une sieste littéraire et que vous avez déjà pratiqué à Manosque aussi.
Oui, à Manosque, les deux jours qui viennent de précéder, on a inauguré en fait les siestes littéraires qui sont nées des siestes musicales. Au départ, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'ai initié avec des amis cette idée de sieste musicale dans laquelle on invite le public à venir s'allonger à l'heure de la sieste et piquer un petit roupillon pendant que nous, on essaye sans faire trop de bruit, d'une manière acoustique, de les endormir. Voilà, donc c'était l'idée des siestes musicales. Et puis, sur l'invitation d'Olivier Chaudançon, on a imaginé cette idée de sieste, cette fois-ci littéraire, où on alterne tout à la fois des auteurs invités du festival qui viennent lire des extraits de leurs livres récents, ou enfin de leurs livres, et on alterne avec des chansons. Et on essaye de trouver des dynamiques, des raccords, des échos entre les textes et les chansons.
On les connaissait traditionnelles, on les connaissait réparatrices, parfois même crapuleuses, mais là elles sont littéraires. C'est bizarre quand même cette idée. Comment ça fonctionne à Manosque? Le public est là? Le public s'assoupit? S'endort?
Alors certains bien sûr s'endorment, la plupart non, mais c'est pareil pour les siestes musicales. C'est juste une autre manière d'écouter soit de la musique, soit des textes. Je pense qu'on a tous cette possibilité à un moment donné, dans ces demi-sommeils dans lesquels on est souvent dans les siestes, d'accéder à un autre niveau d'écoute, un autre niveau de conscience ou d'inconscience. Et je me dis toujours que on pratique la musique, on écoute la musique dans les concerts, on est très attentif, il ne faut rien rater. Mais on peut écouter de la musique aussi très différemment, sans être consommateur. On se laisse juste aller, il se passe des choses, on entend ou on n'entend pas, voilà.
Et puis, en plus de ça, vous avez amené des amis avec vous et ils sont présents avec nous sur ce plateau. Il y a J.P. Nataf qui est juste là. Bonjour J.P.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici pour parler de cette complicité avec Bastien Lallemand dans le cadre des correspondances. Et Albin de la Simone aussi est là. Bonjour Albin.
Bonjour.
Vous faites partie tous les trois bien d'une certaine génération d'auteurs, compositeurs de la chanson française et qui en même temps mettent au centre de leur création la langue française, la littérature, les beaux textes, les beaux mots. JP, c'est important pour vous un texte?
Je vais mettre les pieds dans le plan en disant non, mais une chanson est importante. Donc c'est comme si on disait dans une voiture, la carrosserie est importante, je vous dirais oui, mais moins que le moteur quand même. Donc il y a quelque chose, personnellement, je ne me sens pas très auteur, contrairement à Bastien, qui est quelqu'un qui a une vraie culture de ça, qui prend du plaisir à écrire des histoires et tout. Moi je suis un peu auteur parce que je fais des chansons et qu'à un moment il faut bien que... Je crois que il m'est important comme si je devais aller faire le marché pour faire la cuisine. Et il y a un rapport où c'est plus facile d'être près de l'émotion première qu'on a envie de véhiculer avec une chanson. De choisir ses mots soi-même, c'est quand même, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc je mets du soin à écrire, mais j'ai pas beaucoup de plaisir, je me sens pas très auteur. Et maintenant, en même temps, je fais des chansons en français, donc je vais dire, voilà, je travaille sur toute la chanson, donc à un moment, j'essaye que tout soit bien.
Comme pour la musique, les mots ont une signification aussi, donc c'est important d'avoir un.
Mais
un
les texte. Notes ont une signification aussi, c'est, pas c'est tout, un rythme, dit. Oui, c'est ça, donc voilà, c'est, tout est important en fait.
Il faut effectivement arriver à coordonner les deux. Hein.
Voilà.
Albin de la Simone, pour vous aussi c'est important, je suppose, les textes. On connaît vos fréquentations hein, ici et partout ailleurs, et donc on suppose que pour vous, eh bien, une belle lettre c'est aussi beau qu'une belle musique. Hein.
Ouais, moi je dissocie plus que JP. J'écris le texte en premier. Ça, c'est chacun sa recette. On est tous un peu différents là-dessus, mais moi j'ai vraiment besoin d'écrire le texte sur une page blanche et de que le texte me parle, me raconte une musique avant d'écrire cette musique. Enfin, le texte me raconte la musique dont il va avoir besoin en fait. Donc j'écris le texte pour le texte. Donc j'ai un rapport plus direct au texte, enfin plus concret quoi.
Et c'est vous-même qui écrivez, donc c'est vous faites parfois appel à une plume.
J'ai des esclaves à qui je dicte les textes que je pense en fait parfois.
Ça s'appelle des nègres même.
Non, je pense le texte, je le dis et la personne l'écrit avec un stylo. Non, je plaisante. Oui, non, j'écris tout seul.
Oui.
J'aime ça.
C'est un outil complémentaire de la musique. C'est quelque chose qui fait partie de la chanson, par exemple. Quand on écrit soi-même son texte
en fait,
et sa musique.
En fait, moi, je suis arrivé à la chanson par le texte. J'étais déjà musicien depuis longtemps et je faisais déjà beaucoup de choses, en fait, mais il manquait quelque chose à ma vie, quoi, vraiment. Et je me suis rendu compte que ce qui manquait était l'expression verbale. Donc j'ai recommencé, parce que j'avais fait ça étant ado un peu, j'ai recommencé à écrire des textes et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'entrevoir une issue à mon cas. Ah mais alors en fait texte plus musique égale chanson, mais peut-être que c'est là qu'il faut que j'aille quoi en fait, puisque pour être complet, pour me sentir complet, et ça a été le cas. Donc je me suis mis à écrire des chansons et je me suis mis à chanter. Donc, je suis à l'inverse de JP qui a chanté beaucoup avant d'écrire, j'ai l'impression.
Oui, moi j'écris vraiment c'est exactement le processus inverse de
ouais, c'est ça, c'est
d'Albin. C'est pour ça qu'on est complémentaires
d'ailleurs. Il y a une très grande barbe et moi j'en ai pas.
Voilà.
Mais elle commence à pousser. Hein,
ouais, mais elle pousse moi, pas c'est, plus, c'est mes, elle, mes... elle reste bloquée à ce stade-là. Voilà.
Moi en général, mes musiques me commandent des mots à la fin. Il y a un moment, s'il y a une sorte d'urgence, c'est. Voilà, quand la chanson est prête à sortir, il y a le compositeur qui convoque le chanteur, il lui dit « bon, t'as envie de chanter comment ?» et tout, et voilà, le chanteur reprend le pas et dit « tiens, ben là, il me faudrait des rimes en A, parce que voilà, la mélodie est plus ouverte comme ça, ou c'est plus doux. » Il y a un truc très technique au départ, et après, une fois que le cadre est très 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 défini, voire complètement sclérosé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus déborder, il y a des pieds, tout est articulé, tout est dessiné, il y a vraiment comme un squelette. Un peu comme les trucs d'enfants là où il y a des points et on doit rejoindre les points et ça fait un dessin. Quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est, alors, au dernier moment je remplis un moule. Quoi.
Est-ce qu'il y a des conflits parfois entre les créateurs qui sont en vous? Ça peut arriver.
Non, oui, il y a des conflits de bureau, c'est-à-dire t'es à la bourre, c'est encore toi qui es à la bourre, quoi. Souvent c'est l'auteur.
Et la musique alors, et le texte, etc., etc. Vous êtes tous les trois des artistes cotés sur la scène française et qui sont en plein développement. Vous aimez tous les trois aussi, ça vous réunit, jouer avec d'autres personnes, avec d'autres artistes, des femmes, des hommes, voire autre chose aussi, qui sait. Et vous aimez les échanges. C'est d'ailleurs, les musiciens
beaucoup
connaissent les canards.
Ouais.
Certains, pas vous, messieurs. Allons. Revenons à nos moutons. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Vous aimez les rencontres, donc c'est une évidence. Vous avez accepté la proposition de Bastien quand il vous a dit on va faire une sieste musicale, des siestes musicales littéraires.
Il n'a pas vraiment été. Oui. Mais en général,
vous êtes imposé. Comment ça s'est passé?
C'est un peu entre les deux. En fait, on est. C'est plus des histoires de disponibilité parce qu'on sait quand même tacitement que les uns les autres que on peut pas toujours dire oui, mais par contre si les autres font le truc et qu'on n'y est pas, on est quand même on s'en veut en général, ça, on l'entend passer quoi. Tiens, t'as fait un truc à Manosque avec Belin et David Lafort et tu nous as pas appelé. Non. Donc ça voilà, il y a des petites jalousies comme ça, on est un peu comme une petite famille un peu. C'est vrai qu'à force du coup je pense que Bastien a pas besoin de passer 16 coups de fil pour trouver des compères en général. Mais, et vice-versa.
Il organise une sieste musicale, donc chanson, par mois à Paris. Tous les derniers dimanches du mois, mm-hmm. On sait qu'il y a une sieste. Donc après, voilà, c'est vraiment... Maintenant, on est toute une bande à le savoir. Et donc, Bastien coche les croix qui vient cette semaine et il refuse quand sa sieste est pleine, quoi, en fait.
Il y a un examen d'entrée, Bastien, pour participer?
Non, je crois que c'est beaucoup de connivence entre les musiciens. C'est souvent des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui on a eu d'autres projets, d'autres participations, des moments partagés sur scène. Et puis après, il y a le deuxième degré, c'est l'ami de l'ami, la personne qui aura joué avec Albin et qui va revenir avec Albin. Donc voilà, le réseau se crée comme ça. C'est bien sûr une auberge espagnole, c'est une maison ouverte, les siestes, avec... quelque chose d'aventureux, on ne sait pas forcément à quoi ça va ressembler et ce qu'on va y faire. On sait juste que c'est ouvert et que ça va être un moment de partage musical plus possible.
Et à Manosque, en plus, vous invitez les auteurs qui viennent en correspondance. Il y en a beaucoup, il y en a une cinquantaine, donc ça va être...
Non, alors on n'aura pas tout le monde. Le premier jour, il y avait 5 auteurs, ce qui nous permet d'alterner assez sur 1h15 chansons et textes. Hier, je crois qu'il y en avait 6, voilà, ça sera pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une sieste féminine, donc avec des auteurs femmes. Voilà.
On ne donnera pas les noms, puisqu'il paraît que c'est une surprise, il ne faut surtout pas les dévoiler, donc c'est important. Bastien, une autre actualité qui vous concerne directement, vous allez accompagner Denis Podalydès dans une lecture de deux textes de Jean Giono. On connaît votre amour pour l'écrivain manosquin. Comment vous avez appréhendé ce spectacle avec Denis Podalydès?
Alors, on s'est déjà très peu vu. On s'est contacté. C'est vraiment une commande du festival. Ils ont imaginé ce montage entre le comédien, le texte de Giono et puis ma participation musicale. Sachant que moi, je ne suis pas du tout un improvisateur, je ne suis pas un musicien de jazz qui pourrait venir et puis voilà, se laisser aller à ça. Je ne suis pas du tout un improvisateur. Moi, j'ai besoin de beaucoup de préparer. À l'inverse de Denis Podalydès, qui semble ne pas vouloir préparer très en amont une telle lecture. Donc, on s'est parlé une minute au téléphone il y a 2 mois, en se disant rendez-vous au Tas de Sable, c'est-à-dire le Tas de Sable, le théâtre demain. Je pense qu'on se verra quelques minutes avant, peut-être une heure ou deux avant. Et moi, j'ai imaginé, c'est ce que j'ai proposé, c'est de trouver quelques virgules, de rajouter des virgules instrumentales à cette lecture, en essayant d'imaginer où il y avait besoin de respiration, de petits moments de suspension de la lecture. Donc ça va être, à mon avis, très léger. Alors j'avais peur de trop en faire, que le musicien, tout d'un coup, détourne l'attention sur un tel texte qui pourrait s'en passer, qui, je crois, peut se passer de musique. Alors j'essaie d'être le discret et en même temps d'exister, de faire une proposition, de convoquer en note de musique une atmosphère qui se retrouve dans le récit. Donc c'est très subjectif. En plus, c'est un récit. Alors notamment, il y a Fausto Village, qui est une nouvelle fabuleuse que j'ai découvert pour l'occasion, parce que je suis loin d'avoir tout lu encore. Il a tellement écrit, Giono. Et dans lequel il évoque la couleur vert sombre tout le temps, qui devient une obsession au fur et à mesure du récit. Et je me suis dit, comment est-ce que en 3 accords on peut évoquer cette couleur, le vert sombre? Alors j'essaye de faire ça. 3 accords.
Lesquels?
Le vert et le son et le creux.
Alors je peux te dire, c'est un mi bémol mineur, un si mineur et un do mineur.
On est dans mineurs, donc c'est bien.
Ça doit être assez glissant.
C'est glissant, oui. Voilà.
C'est à voir, c'est sur scène du théâtre Jean Le Bleu, c'est quasiment la clôture des correspondances.
C'est demain à 17h.
Demain à 17h. Et je crois que vous êtes après sur scène aussi, tous les trois.
Alors on fait un concert de clôture du festival qui va se passer à 19h dans ce même théâtre, mais dans une autre salle. 19h, il me semble.
Je crois que c'est 19h, on va vérifier. Voilà.
Il me semble bien que c'est ça.
JP n'est pas au courant.
J'ai déjà un truc à faire.
Bastien, est-ce que vous avez pu visiter le Paraïs, la maison de Jean?
L'an dernier.
Vous y avez été, vous me l'avez promis.
Voilà,
et alors?
C'était fabuleux.
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire et j'ai eu la chance d'avoir une visite pour moi tout seul avec le directeur de cette
avec
maison.
Jacques Ménie qui vous a accompagné.
Qui m'a montré toutes les différentes bibliothèques de Giono et des manuscrits, des lettres manuscrites, d'autres auteurs. Enfin voilà, donc j'ai eu accès à quelque chose d'assez fabuleux.
Vous ressentez ce frisson que l'on ressent quand on est là-bas, on se dit tiens, sur ce bureau il a écrit Le Hussard sur le toit, les Russes dessus,
etc. Bien sûr, et les vues en fait, il y a énormément de fenêtres, il a écrit dans différents endroits de la maison, donc à chaque fois il y a des vues différentes, des perspectives différentes, avec les livres qui, voilà, quand on a commencé à lire, il y a beaucoup de frissons, ouais. J'ai ressenti beaucoup de
exactement.
Choses.
JP et Albin de la Simone, est-ce que c'est la première fois?
On n'a pas du tout révisé Giono.
Non, mais je vous interrogerai pas là-dessus, vous inquiétez pas. Est-ce que vous connaissiez les correspondances de Manos? Quel regard vous portez sur ce festival?
Ça fait deux jours, hein. mon regard n'est pas encore d'une acuité maximale, mais par contre j'avais un fantasme, mais à vrai dire... J'imaginais jamais m'y retrouver parce que j'ai pas mal d'amis, Bastien mis à part, Barbara Carlotti, Bertrand Belin.
Qu'on reçoit régulièrement ici, même, voilà. Vous en doutez.
Voilà, mais comme je suis pas un grand lecteur, à l'instar d'Albin aussi, je pensais avoir très peu de chances de me retrouver là un jour. Donc je suis assez ravi. J'ai l'impression d'être un peu un imposteur dans cet endroit.
Non, je vous rassure.
Il n'y a pas un seul auteur dont j'ai lu un livre, par exemple, à part... J'ai dû feuilleter quelques pages de ceux qu'on a rencontrés à la sieste, comme ça. Mais c'est des rencontres. C'est bien, j'ai l'impression de découvrir quelque chose.
Ça va compter pour vous?
Est-ce que ça va compter pour moi? Ouais, je pense qu'il y a déjà un ou deux des auteurs que j'ai rencontrés ici que j'ai envie de revoir, mais d'un point de vue amical. Mais en tout cas, il y a eu un échange qui était intéressant. On fabrique des choses quand même. Hein, les auteurs comme nous, les faiseurs de chansons, on fabrique des objets après.
Ça vous change un petit peu de votre quotidien de musicien, compositeur de studio, etc.
Non, j'allais dire pas tant que ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que les fins de soirée étaient exactement les mêmes dans le monde de la littérature et de la musique, donc ça n'a aucun intérêt de changer.
C'est la même famille.
Oui, voilà, ouais. On boit les mêmes trucs.
Albin, quel regard vous portez sur ce festival?
Pareil, alors j'ai les mêmes amis que JP, donc j'en entendais parler de ce festival et je lis très peu aussi, malheureusement, et donc j'ai un rapport un petit peu complexé à ça, donc j'y allais avec un mini sentiment d'imposture aussi. Finalement, je me rends compte qu'on partage vachement les auteurs et les musiciens, enfin les auteurs de chansons et les auteurs de livres. On peut vraiment partager et jouer ensemble. Les siestes, c'est un truc où les deux se rencontrent vraiment bien, ça marche, quoi. Et on a eu des correspondances entre des textes et des chansons qui étaient assez dingues, je trouve, pendant les siestes. Et notamment, il y a une écrivaine, on dit écrivaine ?
On peut le dire, ici on peut le dire. Une auteure avec un E à la fin.
Une auteure qui s'appelle Brigitte Giraud,
oui.
Qui était là hier à la sieste et qui a demandé que je chante une telle chanson qu'elle connaissait, qui s'appelle Il pleut dans ma bouche, et dans le texte de laquelle je dis « Et mes parents dorment dans leurs deux lits ». Et elle, après cette chanson, elle avait envie de mettre un texte d'elle qui était magnifique et dans lequel elle a rajouté ma phrase qui parlait du divorce. Et de temps en temps, elle redisait « Et mes parents dorment dans leur deux lits ». Et ça a créé un lien entre ma chanson et son texte que je trouvais incroyable. Et j'avais vraiment envie de les... Maintenant, j'ai envie de les entendre tous les deux côte à côte tout le temps. À tel point que je lui ai proposé, j'espère qu'on arrivera à le faire, de faire un jour un spectacle, un concert, un ping-pong. C'est-à-dire l'équivalent de la sieste, mais juste à nous deux. Je joue une chanson, elle réagit par un texte auquel je réagis par une chanson, en puisant dans nos textes et dans nos chansons. Je suis sûr qu'il y a des formes nouvelles à inventer, enfin nouvelles, pas la révolution, mais qu'il y a des formes intéressantes à exploiter, notamment pour les siestes, je trouve ça vraiment gagnant, quoi.
Il faut proposer ça à Olivier Chaudançon, hein, parce que ça peut être marquant et
c'est le principe de la sieste, hein. Enfin, c'est ce que fait Bastien. Mais là, j'ai eu envie, par exemple, de faire ça spécifiquement avec Brigitte, parce que il y avait une accointance, enfin des préoccupations qui étaient vraiment communes et formulées de la même manière, quoi.
C'est l'un des aspects aussi de ce festival, c'est bien sûr d'avoir des accointances intellectuelles, mm-hmm. mais aussi des connaissances quasiment physiques avec les gens, de rencontrer, ouais. de boire un coup, JP le disait tout à l'heure.
Ou plusieurs.
Les troisièmes mi-temps ou les quatrièmes mi-temps, c'est important dans ces cas-là, c'est un côté convivial qui manque dans notre société quand même.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et c'est une des chances de Manosque tout d'un coup de s'ouvrir comme ça au monde de la littérature et de la musique. Quels sont vos projets, messieurs, professionnellement parlant, mis à part les correspondances de Manosque et les spectacles de cet après-midi et demain, Bastien.
Je suis en train d'écrire mon quatrième album. Je suis à mi-parcours d'une haute montagne. Je suis arrivé à un premier col. La vue est un peu assez dégagée. Les nuages sont un peu passés.
Les mollets résistent bien ?
Les mollets résistent. Il y a encore une bonne ascension. Et j'espère commencer des enregistrements au printemps 2013.
Avec vos amis à côté, Bertrand Belin, Albin de la Simone par exemple, JP.
Par exemple.
C'est pas impossible.
C'est plus que probable.
En tout cas, Le Verger, votre dernier opus, passe régulièrement sur notre antenne parce qu'on adore certaines chansons, et notamment Le Bouillon d'11h, hein, l'empoisonneuse.
D'accord. Très bien,
n'est pas empoisonneuse qui veut. JP, vos projets ?
Mes projets, c'est pareil, je suis en train d'écrire des chansons avec mon ancien acolyte Jean-Christophe Urbain pour un retour de notre orchestre des années 90, Les Innocents. Voilà, 2013 normalement c'est ça.
Plutôt pop-rock, plutôt acoustique, parce qu'il y a une vision quand même plus acoustique maintenant de JP est devenu plus acoustique que Les Innocents.
Je crois pas, dans la forme je vois pas très bien la différence.
Il joue avec ses doigts par exemple.
Ah, il joue avec ses doigts, mais les doigts ne sont pas acoustiques, ils sont de peau.
Mais ils transmettent des vibrations à des cordes qui elles-mêmes vibrent sur des
guitares acoustiques, si vous voulez, d'accord.
Non, ça peut s'expliquer comme ça.
Non, mais je crois que c'est pas tellement dans les outils, c'est le fait d'écrire avec quelqu'un après avoir écrit tout seul pendant 10 ans, c'est assez agréable.
Belle démarche.
En l'occurrence, belle, parce qu'on s'est retrouvés, on est à nouveau... Un vrai binôme, et avec chacun des expériences solitaires de 10 ans, donc avec d'autres bagages et puis une envie, puis quand on voit pas quelqu'un pendant... Enfin si, on s'est vu comme amis, hein, mais c'est assez excitant de ramener... Moi j'ai fait beaucoup de voyages depuis, enfin pas des voyages, des petits voyages on va dire, mais en tout cas j'ai participé à beaucoup de projets avec beaucoup de gens, et donc j'ai emmagasiné plein de choses.
Et puis de retrouver un complice de 20 ans, ça doit être...
Ouais, on a des choses à se raconter, à s'apprendre. Ah, ouais.
Très bien. Albin, vos projets vous-même ?
Moi, j'arrive au pied de la montagne, mais c'est-à-dire au pied en descendant. J'ai fini mon disque quasiment, il sort en février. Je suis ravi. C'est vraiment une page qui se tourne quand on sort un nouveau disque. Nos concerts changent. Enfin voilà, c'est un redémarrage de quelque chose, donc ça, j'en suis très content. Et puis, je monte un spectacle au Québec, je vais très souvent au Québec. Et je monte un spectacle qui est un mélange d'expositions, de spectacles, de trucs très touffus et très complexes que je mettrai 1h25 à vous expliquer.
Malheureusement.
Mais je fais imaginer des films au public. Voilà,
ouais.
C'est un peu un truc par la musique, par une exposition, par plein de choses, des films qui n'existent pas.
Et nos cousins québécois apprécient ?
J'espère.
C'est à voir.
J'espère. Je saurai ça le 13 octobre au soir.
Et puis on a aussi un projet qui nous concerne tous les trois. On fait partie d'un collectif qui s'appelle le DAU. Dont les pièces manquantes sont dans ce studio aujourd'hui, c'est Pascal Parizeau, Bertrand Belin et Holden, le groupe Holden. Voilà, c'est une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait l'écrire. Albin, un petit mot sur le DAU comme ça. C'est
ça a quatre pattes, mais deux plus courtes que les autres, donc ça penche un peu. C'est pas très stable
ça
comme groupe.
Ça saute sur la neige.
Ça saute sur la neige, ouais.
Ouais. Ça fait toujours le tour de la montagne dans le même sens.
Ça ne peut pas reculer, ça peut pas faire demi-tour. Donc c'est un groupe un peu foireux. Et qui tire quelque chose d'intéressant de cet aspect foireux, c'est-à-dire qu'on est tous très différents, on se réunit, c'est en équilibre, et en même temps ça tient pas toujours debout, mais de là naît une beauté, je trouve.
En tout cas, tous les trois, oui c'est très joli ce qu'il vient de dire, tous les trois vous apportez quelque chose sur cette scène française, et vous apportez une fraîcheur et en même temps une percutance qui m'intéresse, qui nous intéresse, qui malheureusement n'a peut-être pas l'écho qu'elle devrait avoir dans le public, et heureusement que certaines radios peuvent un petit peu vous aider, certaines télévisions aussi heureusement, et Internet est là, qui a chamboulé pas mal de choses dans le paysage musical et de la création au niveau de la France. Je rappelle qu'on vous retrouve pour la sieste littéraire, c'est à 15h aujourd'hui. Combien de places,
75 personnes.
75, voilà. 74 j'irai.
Voilà, 74 places.
Attention, j'ai pas eu l'occasion déjà d'aller à vos siestes littéraires. J'espère pouvoir y assister tout à l'heure. Et puis on vous retrouve, Bastien, bien sûr, sur la scène du théâtre Jean Le Bleu, accompagnant Denis Podalydès et accompagnant vos deux merveilleux amis pour la clôture des correspondances. Merci à tous les trois.
Merci.
Je vous propose, et puis à très bientôt, on suivra de toute manière vos carrières respectives avec beaucoup d'attention. Je vous propose d'écouter Olivier Chaudançon, le directeur des correspondances, qui nous présente le programme de la journée et puis le programme aussi de dimanche, parce que vous savez que dimanche, à l'heure de la messe, on ne fait pas d'émission sur les correspondances, on se repose un petit peu. Et ce soir, ne manquez pas non plus, mais Olivier va vous le dire, il y a un très beau spectacle avec Rodolphe Burger, le Cantique des Cantiques. Olivier Chaudançon, merci messieurs, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Olivier Chaudançon, la clôture et le beau week-end des correspondances s'annoncent.
Oui, et on démarre sérieusement, si j'ose dire, avec une rencontre professionnelle qui permettra de faire découvrir au public les résultats de l'enquête qui avait été menée l'année dernière à Manosque. On a analysé quel était notre public, d'où vient-il, par quoi est-il motivé, que retient-il du festival. Donc Gisèle Sapiro, qui a dirigé ce grand travail de recherche, nous livrera les résultats de cette enquête et ça nous donnera l'occasion de réfléchir aux enjeux de la lecture en public telle que nous la pratiquons ici. C'est une nouvelle forme artistique, c'est une nouvelle façon de faire vivre la littérature vers d'autres publics. Donc on réfléchira ensemble à ce parcours-là. Et puis évidemment, alors un week-end très chargé en rencontres avec des auteurs. Je vais citer, en allant très vite parce qu'il y a tellement de choses, Lionel Duroy, que nous recevons pour son livre L'hiver des hommes, Arnaud Bertina et Claro qui viendront dialoguer, Santiago Amigorena et Olivier Steiner pour deux romans qui sont presque des romans épistolaires, l'un et l'autre. Voilà pourquoi on a proposé qu'ils discutent ensemble. Nos fameuses siestes littéraires. Des rencontres croisées comme ça. Alors, Gaël Banteni et Aurélien Bélanger. Aurélien Bélanger, on en a beaucoup parlé pour son livre La théorie de l'information. C'est vraiment une nouvelle génération de la littérature qui émerge. C'est pour ça que l'un et l'autre, on a eu envie de les faire dialoguer pour donner une place aux nouvelles voix. Mackenzie Orcel, lui aussi, c'est une nouvelle voix qui nous vient d'Haïti. Son premier roman publié en France, Les Immortels. Et en plus, j'ajoute que Mackenzie Orcel sera en résidence à Manosque et donc va passer deux mois ici, à la suite du festival, pour écrire son prochain livre. Voilà. Alors quelqu'un, je n'ai même pas besoin de vous le présenter, Olivier Adam, qui vient parler de son dernier livre, Les Lisières. Mais Olivier Adam, c'est plus qu'un intime du festival, puisqu'on l'a créé ensemble, ce festival, et puis depuis quelques années, il revient en tant qu'auteur. Nous recevrons Marie Modiano, qui viendra lire son recueil de poèmes, accompagné à la guitare par Peter Van Poel. Nous recevrons Nathalie Léger, qui a reçu le prix Inter du livre. Donc ça fait un vaste programme, Moshe Sakal. J'ai presque des hésitations à vous donner tous les noms. J'ai envie de vous renvoyer un peu sur le programme, mais pour finir cette journée de samedi, vous mentionnez également que Pascal Quignard revient pour faire une lecture. Et on s'est débrouillé pour qu'il puisse la faire en grande salle. C'est important parce que ça a lieu à 19h et je sais que les années précédentes, quand il était venu, ça avait été un peu l'émeute. Donc là, je pense qu'on pourra satisfaire un petit peu tout le monde. Ce même jour, on recevra également Gwenaël Aubry, Mathieu Riboulet, Ariel Koenig. Voilà, donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts et tous les parcours possibles. Et puis en soirée, nous aurons au Théâtre Jean Le Bleu un moment, à mon avis, important dans le festival. C'est Rodolphe Burger qui vient avec plusieurs musiciens et des récitants pour une lecture musicale autour du Cantique des Cantiques que Rodolphe Burger avait mis en musique pour Bachung à l'époque du mariage de Bachung et également pour Mahmoud Darwish, parce que Rodolphe Burger a découvert un poème de Darwish qui est exactement une sorte de miroir et de réponse au Cantique des Cantiques. Donc il y aura ces deux textes en lecture musicale et je pense que ça va être extrêmement fort. Et puis pour clore la soirée à 22h30 au Café Provisoire, nous aurons Frédéric Nefché-Herlian, grand musicien, chanteur marseillais, qui est venu à Manosque il y a quelques mois pour présenter son travail sur Prévert et qui là vient pour quelque chose d'inédit, comme à chaque fois aux correspondances. Il nous fera entendre des extraits de son prochain album et nous fera entendre comment il travaille avec un écrivain qui s'appelle Ronan Chesneau. Voilà pour cette étape dans le week-end. Je vous ai décrit un peu la journée de samedi. Dimanche, à nouveau, beaucoup d'écrivains. Simonetta Greggio, Olivier Cadio, ça c'est important. Je le dis c'est important pour moi, ils sont tous importants, mais Olivier Taddeo, ça fait des années qu'on essaie de l'inviter, et puis les dates n'étaient jamais les bonnes. Cette fois-ci, ça marche, il va être avec nous. Et comme pour Pascal Quignard, on s'est débrouillé pour qu'il puisse faire sa lecture en grande salle du théâtre, contrairement à ce que le programme note d'ailleurs, on a pu aménager ça de façon à satisfaire le public. Et puis nous recevrons Linda Lee, Leslie Kaplan, un auteur que nous suivons depuis longtemps et on se réjouit de son succès actuel, Patrick Deville, qui viendra pour son dernier ouvrage de Peste et choléra. François Garde, qui a eu le Goncourt du premier roman, Ce qu'il advint du Sauvage Blanc, un livre assez saisissant pour ceux qui le connaissent déjà. Océane Rosemary, alors quelqu'un aussi important pour nous à différents égards, important artistiquement, parce que Océane Rosemary est à la fois une chanteuse sous le nom d'Ocean, une one-woman show, enfin en tout cas elle fait des one-woman show, notamment un spectacle qui a tourné énormément qui s'appelle La Lesbienne Invisible, et elle va réunir ces deux talents pour venir nous faire une lecture musicale inédite. Et puis Océane est également la fille de Jean-François Michel qui était notre président, donc ça me fait plaisir aussi à ce titre-là de la recevoir. La clôture des correspondances va être en lien avec l'année Giono à Manosque, puisque avec le centre Giono et Annick Vigier, on a imaginé une lecture de nouvelles de Jean Giono, de nouvelles assez peu connues, enfin les amateurs connaissent, mais le grand public certainement moins. Donc deux nouvelles très différentes qui montrent vraiment l'étendue du talent de Jean Giono. Et la lecture sera faite par Denis Podalides, accompagné à la guitare par Bastien Lallemand. Et puis cette année, comme on a envie à chaque fois d'avoir des petites nouveautés, la clôture sera pas simplement cette lecture que je viens de citer, mais aussi deux autres rendez-vous dimanche fin de journée. D'une part du cinéma, projection en avant-première nationale de Foxfire, le film de Laurent Cantet, adapté de Joyce Carol Oates. Et puis un concert de clôture, une sorte de cadeau au public. Notre trio qui aura animé les siestes acoustiques chaque jour, Bastien Lallemand, J.P. Nataf, Albin de la Simone, nous offre un concert de clôture à 19h au Café Provisoire.
Retour en plateau pour cette émission en direct des correspondances de Manosque et j'ai le plaisir d'accueillir Simonetta Greggio. Bonjour Simonetta.
Bonjour.
Vous êtes un écrivain d'origine italienne et vous écrivez en français, on va décortiquer tout cela. Vous avez écrit L'homme qui aimait ma femme, très beau titre qui est paru chez Stock. Première question que je vais vous poser qui n'a rien à voir peut-être avec la littérature. Simonetta, est-ce que vous avez des frères et sœurs ?
J'ai trois frères qui sont plus petits que moi. Je suis l'aînée. Et pourquoi on me posait cette question qui est quand même assez...
C'est une question très personnelle parce que tout simplement dans votre livre, c'est une histoire de famille. Et les deux héros de votre livre, héros entre guillemets, sont Alexandre et Yann, deux frères que tout distingue, beaucoup de choses, sauf une chose, sauf l'amour d'une femme, Maria. Et c'est toute l'intrigue de l'homme qui aimait ma femme, vous l'avez compris, c'est un de ses frères qui aimait la femme donc de son frère, tourne autour de ce rapport sœur-frère, frère et femme, etc. Et donc, peut-être que certaines choses de votre vie expliquent cela, mais ça peut être aussi autre chose. Donc
Non, parce que mes frères ont eu la très bonne idée de tomber amoureux de femmes extrêmement différentes, qui sont toutes...
Et qui ne sont pas les mêmes.
Qui ne sont pas les mêmes, c'était une bonne chose. Et puis... Il y avait quelque chose qui me fascine dans le rapport des frères, des sœurs. On est tous nés dans le même nid ou dans le même tanière, ou comme disait Colette, le toutounière. Et c'est étonnant comme il y a à la fois un très grand amour qui est presque, qui est presque, je dirais, c'est un amour très particulier qui n'existe qu'entre frères et sœurs, et en même temps une sorte de rivalité. La rivalité pour qui est le plus aimé des parents, qui est le plus aimé de quel, du père ou de la mère. Et donc déjà, il y a pour moi à la fois une fracture, quelque chose qui révèle, qui peut aller dans le drame assez rapidement. Alors, ce n'est pas arrivé dans ma famille, mais j'ai vu des familles dans lesquelles ça se passait. Et cette espèce d'amour qu'il y avait, qui était inconditionnel, et en même temps, cette espèce de haine qui surgissait par la trahison, était pour moi la base d'un parfait mélodrame.
Et des drames, il y en a dans votre roman. Il y en a notamment deux qui sont extrêmement forts. La mort d'une sœur de Maria, qui était très liée aussi avec un des frères. Vous voyez, on revient toujours à la fratrie.
Ah oui, c'est très endogame. Tout le monde couche un peu avec tout le monde et tout le monde aime un peu tout le monde. Et c'est vrai que, regardez, là, ça arrive dans beaucoup de familles. Ça,
tout à fait. Et puis, deuxième drame aussi, c'est une disparition avec une question, un grand point d'interrogation. Que s'est-il passé? Qu'est-elle devenue? Elle et son chien, d'ailleurs un chien, un peu un ange gardien quelque part, et qui, deux drames qui vont évidemment changer la vie de vos héros. On peut en dire deux mots de vos héros d'ailleurs, parce que Alexandre et Yann, ces deux frères, sont très très différents. Le premier, l'aîné, est érotomane, il adore les femmes à tel point qu'il en est malade. Il est amoureux, il a piqué, entre guillemets, Maria à son frère, Yann, qui ne lui a jamais pardonné. Ça finira mal. Ça finit mal.
Ça se termine mal et ça se termine bien en même temps, parce qu'il y a quelque chose, je ne vais pas dire ce qui se passe à la fin. Ça se termine très mal et très bien, comme la vie. Bien sûr qu'il y a des drames, et bien sûr que vous allez pleurer, et bien sûr que vous allez souffrir, mais quelque part, après, il y a toujours le soleil qui revient, et puis de toute façon, on va finir par mourir, donc oui, c'est un drame quoi qu'il en soit. Donc tout ça, ce ne sont que des vicissitudes, en fin de compte.
Avec, par exemple, un moment fort, c'est quand Maria, au bout de dizaines et dizaines d'années, va quitter Alexandre, et Alexandre qui va se retrouver comme une loque dans les rues de Paris, par exemple.
C'est arrivé à beaucoup d'hommes autour de moi d'être tellement sûrs de l'amour de leur femme que lorsqu'ils ont vu que ça ne fonctionnait pas comme ils pensaient que ça allait fonctionner, ils sont restés déséquilibrés, voire malheureux pendant des années, voire carrément détruits, brisés. Je suis toujours fascinée par la monomaniaquerie, on va dire, masculine, ou par la forme d'égoïsme masculine qui ne permet pas aux hommes de regarder ce qui se passe dans la vie de la femme qui partage leur quotidien, jusqu'au moment où c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, souvent c'est vraiment trop tard, et là, ils ne comprennent plus rien.
Vous vous êtes donc inspiré de la vie de certains de vos contemporains pour définir le profil de vos personnages?
Moi, je regarde autour de moi ce qui se passe. C'est le propre d'un écrivain que d'être extrêmement observateur et de faire entrer toute la vie autour de soi dans son petit cœur, dans sa tête, sous ses doigts quand il travaille, quand il écrit. Donc je regarde ce qui se passe autour de moi et je lis aussi beaucoup d'essais, beaucoup de choses philo ou de société, et je m'aperçois vraiment de comment on essuie les plâtres d'une relation amoureuse qui n'est plus telle qu'elle était il y a 40 ou 50 ans, ou même seulement 30 ans. On a essayé des choses pendant les années 60, on les a bouleversées ou chavirées en 68, et puis finalement on revient toujours au même schéma, qui est un schéma obsolète, qui est un schéma qui donne toujours le même problème. Finalement, il se passe toujours la même chose. Et tant qu'on n'aura pas changé profondément cela, tant qu'on n'aura pas intégré ce qui se passe dans notre cœur et quelle est l'harmonie avec la société telle qu'elle est en ce moment, et bien il se passera toujours et toujours et toujours les mêmes choses, comme il y a 2000 ans, comme il y a 1500 ans. J'ai l'impression que les rapports entre les hommes et les femmes en sont toujours un peu là.
C'est l'un des enseignements de votre roman, Simonetta, que justement, par-delà les personnages, on traverse la société française, on traverse une époque des années 60, vous l'avez dit, 68, jusqu'à nos jours. Et on ne sort pas indemne de cette traversée parce que la société a terriblement changé, elle a évolué, elle a sabré certaines personnes. Il y a aussi quelque part dans votre roman une ode à la culture française, au cinéma notamment. Ça ne nous étonne pas avec une intrigue qui ressemble étrangement à un film de François Truffaut, des choses comme ça. Et puis aussi, on sent une bonne connaissance de la psychanalyse et une certaine pratique peut-être, et qui fait qu'on on traverse notre société française avec un regard qui n'est pas tout à fait... le regard interne de quelqu'un qui est de la société française, puisque vous êtes vous-même italienne, même si vous connaissez fort bien notre société, vous avez conscience en écrivant que vous êtes un reflet intéressant, important pour nous de ce qui s'est passé dans notre pays.
Ce qui se passe quand on est étranger à un pays, moi je reste italienne, ma nationalité est toujours italienne, et quand on m'a demandé si je voulais en changer, il n'en était pas question, il fallait que je reste italienne parce que c'est mon âme. En même temps, ça vous donne une étrange liberté parce que vous n'êtes pas tenu à dire ce qu'il faudrait dire. Et bien sûr, quand vous êtes hôte dans une maison, vous allez bien vous tenir et ne pas taguer les murs et ne pas cracher par terre ou utiliser correctement vos couverts. Mais en même temps, le fait de venir d'ailleurs vous donne une plus grande marge de manœuvre. Et j'ai revisité certains personnages clés des années 60 et 70, comme Althusser ou comme Pierre-Henri Rocher ou d'autres, avec ma propre vision des choses qui n'est plus italienne et qui n'est pas française. C'est entre les deux.
C'est une richesse pour vous ?
Pour moi, c'est une... Je répète ce mot parce qu'il m'est particulièrement cher, c'est une liberté. Et sans liberté, il n'y a pas d'écriture ou disons que peut-être que vous pouvez écrire quand même, mais ça ne vous contente pas, ça ne vous satisfait pas. C'est... Vous avez besoin de cette liberté-là pour pouvoir comprendre ce que vous pensez vous-même et peut-être ce qu'il y a à gratter sous l'évidence. Et si un livre sert à quelque chose, c'est à dévoiler toutes ces évidences qu'on nous jette à la figure tous les jours par les journaux télévisés ou par cette indifférence aussi aux faits, aux événements, alors qu'un écrivain s'empare d'un détail, d'un état d'âme, et il en fait tout un livre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe derrière.
Et puis il y a des détails dans votre livre, comme par exemple ce chien qui va accompagner Manon, et qui va disparaître, et on se pose la question de se dire, mais ce chien qui, bon sang, l'a protégé et l'accompagnait, qu'est-il devenu? Est-il mort lui aussi? On ne sait pas.
C'est marrant, vous parlez du chien, parce qu'il y a toujours des chiens dans mes livres, et c'est toujours un peu à la fois des figures d'anges gardiens, à la fois des figures un peu de l'instinct animal, à la fois aussi...
La fidélité.
La fidélité, parce qu'un chien, c'est une machine à fidélité qui n'a pas le libre arbitre. Et dans un livre qui ne parle, en fin de compte, L'homme qui aimait ma femme ne parle que de trahison, que d'infidélité, que de tromperie. Quelle est la part de trahison qu'on a vis-à-vis de la personne qu'on aime le plus ou vis-à-vis de soi-même? Quelle est la part de fidélité qu'on se doit, qu'on doit à l'autre? Par où passe la fidélité? Et quelle est la différence entre se trahir, trahir, tromper, se tromper? Et ben ce chien est finalement un point d'orgue, j'allais dire, mais un curseur qui est... Voilà, lui, il n'a pas le choix. Il est juste fidèle et il va être fidèle jusqu'au bout.
L'animal n'est peut-être pas celui que l'on croit.
Moi, je dirais que ça serait bien d'être un peu plus animaux et donc d'écouter un peu plus la part animale de nous-mêmes.
Simonetta, vous êtes italienne, vous l'avez dit, ça s'entend encore un tout petit peu, et c'est très bien, c'est très bien, ça vous donne une tonalité très personnelle, magnifique. Vous avez choisi d'écrire en français. Pourquoi ce choix d'écrire directement en français?
Parce que les contrats sont meilleurs en France. C'est pas une blague, hein. C'est la vérité. C'est un tel désastre culturel. Les années Berlusconi ont tellement détruit la culture de mon pays, profondément changée pour toujours probablement, C'est beaucoup plus intéressant de faire une émission avec des filles à moitié nues à Grossin que de sauvegarder une partie de notre patrimoine. C'est toujours plus intéressant de construire un énorme hôtel qui ne va servir à rien ni à personne sur une côte sauvage et sublime. C'est toujours plus important d'ouvrir un nouveau bar que sauvegarder un musée où il y a des peintures qui se dégradent. Voilà, et ça, c'est pour la littérature, c'est la même chose. J'ai des amis italiens qui font le même métier que moi, qui ont le même score de vente que j'ai et qui ne peuvent pas en vivre parce que le marché du livre est... déjà, le prix est plus bas. Les éditeurs vous suivent moins ou de manière moins fidèle, encore une fois. Et puis les lecteurs ne suivent pas. Donc, c'est une réelle catastrophe parce que je vois des écrivains formidables qui sont obligés de travailler comme le faisait Kafka, quoi. C'est pendant la nuit ou le matin très tôt parce qu'ils sont obligés de gagner leur vie autrement. Alors, je ne dis pas qu'écrivain doit être forcément un métier qui va vous faire vivre et tout, mais c'est quand même très bien de savoir que vous avez un statut, que ça existe, que vous avez droit à une retraite éventuellement, que vous avez une couverture sociale, que vous avez des formidables bourses ou résidences ou aides du SNL ou de la Société des gens de lettres, qu'il y a des manifestations comme celle-ci, comme Manosque, il y en a d'autres en France qui sont magnifiques. Et ça vous donne un réel équilibre ou un statut plus intéressant, plus équilibré.
Ça veut dire que vous vous considérez un petit peu comme une exilée littéraire en France?
c'est un joli mot. Disons que je me considère comme une chanceuse, bon sang de chanceuse. J'ai vraiment la chance de pouvoir écrire en français. Et c'est la langue de, je le répète pour la troisième fois, de ma liberté. Et cette langue, je l'aime profondément. C'est une langue que j'ai appris à manier avec la lecture. Je suis une énorme lectrice. Donc, oui, elle vient de mes livres préférés, des liaisons dangereuses, de tout ce qui a été mes livres de chevet pendant mon enfance, mon adolescence. Oui.
Simonetta, vous l'avez dit, on l'a senti, c'est une chance d'avoir un festival comme celui-ci à Manosque.
Oui.
Vous êtes à Manosque depuis quelque temps, vous avez pu un petit peu fréquenter les lieux de rassemblement littéraire?
Je suis arrivée hier, j'ai écouté un petit peu partout, j'ai été tendre l'oreille un peu partout. C'est merveilleux parce qu'il se passe plein de choses en même temps, donc on a une espèce de boulimie, on a envie d'être à plusieurs endroits en même temps. On peut pas,
avec beaucoup de frustration d'ailleurs.
Oui, c'est ça, parce que je vais écouter Ariel, Koenig, ou en même temps il y a quand même Denis Westhoff, qu'est-ce que je veux faire? Et donc vous êtes, c'est très excitant d'avoir le choix comme ça. Hier j'ai écouté Denis Westhoff, donc le fils de Sagan, qui est aussi dans ma maison d'édition, et j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Je trouve que le cadre de Manosque donne aux auteurs, avec un grand naturel, une grande tranquillité d'esprit, une grande simplicité, les moyens de s'exprimer au mieux de leur de ce qu'ils ont à dire, à faire, et avec le sourire. C'est une sorte de cirque pendant quelques jours où tout le monde fait sauter son lion. Tout en buvant un verre ou en allant danser le soir avec les musiciens, justement, c'est drôle.
Et il faut faire attention parce que vous savez que le public est averti. Hein. Il vous attend un petit peu au tournant, les auteurs. Il y a souvent des questions qui sont extrêmement pertinentes, qui sont posées par les gens dans le public.
C'est toujours le cas.
Et qui sont fraîches parce qu'elles n'émanent pas de journalistes qui parfois sont en accointance avec les maisons d'édition.
Ouais,
et c'est une excellente chose. Simonetta, justement, vous avez un rendez-vous, c'est demain. Demain à 11h, et vous allez être cuisiné entre guillemets par notre amie Maya Michalon, l'homme qui aimait ma femme. Ce sera sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous appréhendez ce moment ou
non,
c'est un moment de plaisir?
J'adore ça parce que les bons lecteurs qui vont fouiller votre livre, c'est ce que vous avez envie d'avoir en face de vous à un moment donné. Vous dites que les journalistes sont souvent complaisants ou tout ça. Il y a des...
J'ai pas dit souvent, non, non. Mais j'ai dit
non,
ils
mais
le sont.
Vrai. Non, mais disons que là, ils ont par exemple une rentrée littéraire avec 600 bouquins, oui, que c'est absolument monstrueux, ouais. Que forcément, il y en a peut-être 30 ou 40 qui sont déjà un peu en vue déjà avant l'été. 30 ou 40 bouquins, c'est déjà énorme. Donc, je ne sais pas comment ils font. Alors, forcément, il y a des facilités. Forcément, ils n'ont pas le temps de tout lire. Forcément, ils doivent lire des livres en diagonale. Je ne sais pas comment, sinon, un être humain pourrait avaler autant de... Surtout que c'est souvent des bouquins qui... Je veux dire, on met un an ou deux ans à écrire un livre. Comment vont-ils le lire en une demi-heure, une trois quarts d'heure, en une heure? Ce n'est pas possible. Donc oui, effectivement, il y a des trucs un peu bizarres ensuite qui ressortent dans la presse. Mais c'est un peu le jeu, on s'en fiche. Ça, c'est un peu la crème, voilà, c'est la crème fouettée, on s'en fiche. C'est pas vraiment ça l'important.
Ça n'est pas votre premier livre, L'homme qui aimait ma femme. Vous avez un livre en préparation actuellement, Simonetta?
En fait, comme j'écris comme une dingue, j'ai déjà écrit mon prochain livre.
Il est déjà paru, il est déjà...
Non, je l'ai écrit cet été et ça a été une espèce d'apnée incroyable. Pendant 2 mois, je n'ai fait que ça. Je dormais avec mon ordinateur à côté de moi, quand je dormais d'ailleurs. Je ne pensais qu'à ça, je ne faisais que ça. J'oubliais de manger, j'oubliais tout. J'oubliais de faire pipi, j'oubliais tout. Et puis, c'était fantastique parce que vous ne faites que ça et vous êtes cette obsession... paye. Et ce livre est très étonnant parce que c'est une histoire assez simple, beaucoup plus simple que celle que l'homme qui aimait ma femme. C'est une sorte d'histoire très linéaire, très efficace, très simple, où j'avais envie de mettre plus de cœur que de tête. Alors que dans le précédent, celui que vous avez entre les mains, il y a plus de tête que de cœur, à mon avis, à mon humble avis. Et ça m'a plu de faire ça, ça m'a rafraîchi, c'était comme un bain. C'était comme un baptême.
Ça sortira quand et ça portera quel titre? On va parler de votre titre juste après.
Alors, pour l'instant, le titre de travail...
si vous voulez le dévoiler, bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est Nina, c'est l'histoire de... c'est le nom de la femme qui traverse le livre. Mais je pense que ça va s'appeler Buongiorno Amore.
En italien, donc.
Oui. Mais de toute façon, vous avez très bien compris, non?
Bien sûr, bien sûr. Il y a des mots qu'on comprend très très bien et très facilement. Simonetta, c'est vous qui avez choisi votre titre, L'homme qui aimait ma femme?
Oui, c'est toujours moi qui choisis mes titres. J'aime tellement les titres. Mon premier livre qui m'a donné tellement de joie, de bonheur, et dans l'écriture et dans la sortie, parce que ce n'est pas toujours simple de sortir un premier roman, c'était La douceur des hommes. Et c'est un titre que j'ai adoré trouver. Et pour tous les titres de mes livres, c'est un peu la même chose. C'est une histoire de... C'est comme si les mots venaient à vous comme des sortes de petits poèmes ou de petits haïkus, quelque chose qui correspond profondément à la cadence, à votre résonance intérieure, à quelque chose qui fait écho à votre cœur. Ouais.
On va poser une question à un psychanalyste très intéressant. Pourquoi une femme a écrit « L'homme qui aimait ma femme » Alors là, il y aura du travail pour 2 générations au moins. Merci encore, Simonetta, d'avoir été mon invité. Et on rappelle que vous êtes en rencontre, c'est sur la place de l'Hôtel de Ville, demain, dimanche 30 septembre. Et je rappelle, bien sûr, « L'homme qui aimait ma femme », c'est paru chez Stock Edition.
Il y a aussi les siestes littéraires aujourd'hui, avec les 3 garçons que vous aviez tout à l'heure.
Exactement, vous allez y participer.
Oui.
Je m'en suis douté un petit peu quand je vous ai vu tout à l'heure discuter avec Bastien. Très bien.
Je vais être ravie de faire ça, c'est la première fois que je le fais. Et ça m'amuse beaucoup de mettre des textes comme ça en écho avec des chansons.
Alors justement, on va se quitter en écoutant Albin de la Simone, qui est aussi un personnage important sur la scène française de la chanson et qui représente un petit peu une nouvelle vigueur de ces chanteurs qui se prennent pas trop la tête, qui dansent pas beaucoup sur scène comme Bertrand Belin, mais alors quel talent et on en passe régulièrement sur notre antenne, donc c'est un bonheur que d'écouter Albin de la Simone. Je vous remercie encore, Simonetta Greggio. Bon festival à Manosque.
Merci.
Et bon festival. C'est comme ça?
Bon festival.
Oh, je me suis trompé sur l'accent. Oh là là. Il faudra que je fasse des révisions. Merci encore. Merci aussi Agathe pour la régie. On se quitte en écoutant Albin de la Simone et puis on va fermer la page des correspondances 2012 pour Mistral. Je vous rappelle que ces émissions sont toutes enregistrées, elles seront disponibles sur notre site internet www.fréquencemistral.net. Et juste après Albin de la Simone, eh bien les infos moins réjouissantes du monde avec Radio France Internationale, du monde et de la France. Merci Agathe, à bientôt.
Merci François, à bientôt.
Bien. Merci beaucoup.
J'ai pesé 10 kilos, dont 2 de vélo, en pantalon velours et des barres de éponge. J'ai chaussé du 18, du 28, du 38. J'ai eu les fesses rouges, du talc dans les langes, les cheveux gras et longs. J'ai d'ailleurs été blond. De 0 à 8 mois, puis à 15 ans. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. J'ai menti à ma mère, volé de la monnaie. Ça, je n'ai jamais su me taire. On me l'a reproché. Mais au moins à présent, je le sais. Je le sais. J'ai eu l'air frénétique, hautain et colérique, ou mou comme une limace, comme un œuf que l'on casse. J'ai rêvé de judo, aïkido. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je peux changer. Puis hier aux aurores, mon âme et puis mon corps, tordus par l'alcool fort, ont su te mal aimer. Je ne sais pas pourquoi, pas encore. Pas encore, mais tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, ne t'inquiète pas. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je peux changer. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, je peux changer, je vais changer.